Les matins se poursuivent avec le journal de Clara Lecoq-Réal. Bonjour Clara.
Bonjour Guillaume, bonjour à tous. Plus de 5000 tonnes de produits chimiques ont été détruits lors de l'incendie d'une usine à Rouen il y a une semaine. La préfecture en donne la liste, mais le manque d'explications interroge encore. Nous nous pencherons sur cette nouvelle communication institutionnelle dans ce journal.
Vous comprendrez ensuite pourquoi les policiers sont appelés à se mobiliser ce mercredi entre le surmenage et la réforme des retraites. Leurs doléances sont nombreuses. Le défilé s'annonce inédit.
150 citoyens français donneront jusque fin janvier leur proposition pour préserver le climat. Ils ont été tirés au sort et ils étaient présentés hier soir. France Culture y était.
Sylvie Goulard devant les eurodéputés du Parlement. Son audition a lieu aujourd'hui. Face aux soupçons d'emploi fictif, elle devrait être bousculée.
C'est un rituel hebdomadaire à l'Assemblée nationale. À quoi servent les questions au gouvernement? Frédéric Saïs posera la question dans son billet politique après ce journal. Elles ne veulent croire ni le préfet ni le gouvernement sur les conséquences de l'incendie de l'usine Lubrizol à Rouen. Hier, près de 2000 personnes ont défilé du palais de justice de Rouen jusqu'à la préfecture. Elles ont fait entendre leur défiance, exigé la transparence. Parmi elles, Madeleine, 14 ans.
On vit à Rouen, on respire à Rouen, on fait des choses à Rouen. On nous dit pas la vérité ou alors c'est très flou ce qu'on nous dit sur ce qui s'est passé avec l'usine qui a explosé. Ce qui va dans nos poumons, ça nous rend malades. Il y a eu des vomissements, des malaises. Donc à un moment, il faut réagir avec ça. Quoi.
Ça a été votre cas ?
Oui, moi j'ai eu des maux de tête. J'ai des amis qui ont fait des malaises, il y a eu des vomissements. Donc je pense qu'il faudrait un peu ouvrir les yeux et réagir parce que ça va devenir dramatique. Qu'est-ce qu'il y a dans l'air ? Qu'est-ce qu'on respire ? J'aimerais bien avoir une réponse à cette question.
Qu'est-ce qu'il y a dans l'air ? Bonjour Claire Flochel.
Bonjour Clara, bonjour à tous.
La préfecture a communiqué la liste des produits touchés hier soir et il y avait plus de 5000 tonnes de produits chimiques.
5253 tonnes précisément ont été détruites lors de l'incendie. 479 produits en tout, des produits toxiques puisqu'il s'agit d'hydrocarbures, de métaux, de solvants, de détergents ou encore d'acides organiques. Un des documents publiés par la préfecture précise que tous ces produits ne sont pas dangereux. La dangerosité, peut-on lire, dépend de la quantité présente, du devenir des molécules après avoir brûlé et de la manière dont on est exposé, soit par contact cutané, inhalation ou ingestion. La question qui se pose maintenant, c'est donc de savoir si la population a été exposée à des dioxines. Les dioxines sont générées lorsque ce type de produit brûle. Ces substances sont aujourd'hui retombées au sol dans l'essuie, mais elles peuvent se fixer dans les graisses du corps humain et provoquer des effets à long terme sur la santé. Les dioxines ont une persistance longue, plus de 12 ans. Ce sont donc leurs présences qui sont recherchées dans les champs agricoles. L'air, lui, n'est plus toxique, mais on l'entend de la part des habitants. Une odeur d'œuf pourri persiste, dégagée par ces 160 fûts dégradés encore présents dans l'usine. La préfecture précise qu'elle organisera leur évacuation dans les prochains jours. Et selon les experts, même s'ils sont très mauvais, ces fûts ne sont donc pas nécessairement les plus toxiques en réalité. Enfin, les résultats des premières analyses exclut d'ores et déjà les risques liés à l'amiante. Aucune fibre n'a été détectée sur les surfaces et dans l'air, les seuils sont extrêmement faibles. Il n'empêche qu'une quarantaine de plaintes ont été transmises au parquet de Rouen, la plupart pour mise en danger de la vie d'autrui. La justice rouennaise qui annonce se dessaisir de l'enquête au profit du pôle de santé publique de Paris, compte tenu de ce nombre de plaintes et de la technicité des investigations.
Merci beaucoup Claire Flochel pour ces précisions ce matin après le communiqué de la préfecture. Alors comment expliquer que ces chiffres ne rassurent pas la population? Outre le ressenti qui prend le pas, nous l'avons entendu sur les explications, Philippe Moreau-Chevrolet évoque la fracture entre l'élite trop parisienne et la population. Il est professeur de communication politique à Sciences Po.
Il y a eu une grande cassure entre l'État et les Français sur ce terrain de la pollution et de la sécurité, c'est Tchernobyl. Après l'explosion de Tchernobyl, dans les années 80, on a dit aux Français « le nuage va s'arrêter à la frontière ». C'était un mensonge qui a été porté au plus haut niveau du gouvernement, y compris par le Premier ministre de l'époque. Donc on a cette histoire en tête. Donc quand un gouvernement nous dit « c'est une catastrophe industrielle, mais elle n'est pas grave », on va d'abord ne pas le croire et se dire « oula, la dernière fois, on s'est fait avoir, cette fois-ci, c'est pas le cas, je me protège ». C'est une cassure. Pour la réparer, il faut beaucoup de temps, il faut beaucoup d'attention, il faut gérer les crises très différemment. Il faut tout de suite reconnaître la gravité de ce qui s'est passé, prendre des mesures de précaution qui vont toutes dans le même sens, être du côté des gens, pas du côté de l'industrie. Et à partir de là, quand cette base est posée, on pourra peut-être reconstruire un lien sur le terrain sanitaire entre les Français et l'État.
Philippe Moreau-Chevrolet, interrogé pour France Culture par Stéphane Robert. Je précise que les parlementaires ont également demandé des comptes au gouvernement hier. Réponse de la ministre de la Transition écologique et solidaire, Elisabeth Borne, à l'instant. Le gouvernement donnera tous les éléments en sa possession. Voilà ce qu'elle dit chez nos confrères de France Info. Vous imaginez même la méthode que vous allez employer. Plusieurs fois, j'ai pensé mettre fin à mes jours. Ces témoignages glaçants se multiplient chez les policiers. Ils se disent harassés, mal considérés et ils vont donc défiler aujourd'hui. Pour la première fois depuis 2001, depuis près de 20 ans, tous les syndicats leur demandent de battre le pavé. Une marche de la colère que vous nous expliquez, Antoine Marette.
Les raisons de cette colère sont multiples. Il y a d'abord l'usure liée au mouvement des Gilets jaunes qui dure maintenant depuis presque un an, même si la mobilisation est désormais moindre. Pendant ces manifestations, à plusieurs reprises, les forces de l'ordre ont été accusées de violence. À cela s'ajoutent les suicides dans la profession. Ce phénomène n'est malheureusement pas nouveau, mais ces derniers mois, il a connu une hausse spectaculaire. Depuis le début de l'année, 52 policiers ont mis fin à leur jour, ce qui correspond environ au chiffre de la moyenne annuelle. Et puis il y a un contexte de crainte lié aux réformes des retraites et de la fonction publique. Les syndicats craignent une remise en cause de leur système de bonification avantageux. Il leur offre une annuité de cotisation tous les 5 ans. Cette bonification spéciale est plafonnée à 5 annuités. Et pour être éligible, le fonctionnaire doit avoir exercé 27 années de service. Le ministre de l'Intérieur a assuré le mois dernier qu'il défendrait jusqu'au bout la spécificité de ce statut. Mais les organisations syndicales sont sur leur garde. Elles souhaitent une position ferme et définitive du gouvernement.
La réforme des retraites qui cristallise décidément les mécontentements. Les trois principaux syndicats de la fonction publique hospitalière se joindront mardi prochain au mouvement. La CGT, la CFDT et Force ouvrière appellent ensemble les salariés et les usagers à se mobiliser. À leur côté, ce matin par ailleurs, 108 personnalités s'y associent. Chanteurs, acteurs, intellectuels, ils s'engagent pour sauver, est-il écrit dans les colonnes du Parisien, pour sauver l'hôpital en danger. Et ce n'est pas pour sauver la planète que ces 150 personnes-là ont été recrutées, mais pour la ménager. 150 citoyens français ont été tirés au sort pour composer la Convention citoyenne pour le climat. Cette convention avait été annoncée par Emmanuel Macron en avril dernier comme une réponse aux Gilets jaunes. Plus de 250 000 personnes depuis ont été contactées pour aboutir donc finalement à 150. Reflet du tableau français, Rosalie Lafarge.
Un peu plus de femmes que d'hommes, des jeunes et des moins jeunes, des habitants des villes et des campagnes, des non-diplômés et des surdiplômés, 150 personnes qui constituent une mini-France chargée de trouver les réponses à une question. Comment réduire les émissions de gaz à effet de serre de la France de 40% d'ici 2030 ? Vaste sujet.
On a découpé ce sujet en 5 grandes enveloppes thématiques. Se loger, se nourrir, se déplacer, consommer et puis enfin produire et travailler.
Thierry Pech co-préside le comité de gouvernance de cette convention citoyenne.
Dans chacune de ces enveloppes thématiques, on va proposer aux citoyens de se confronter à des controverses. Par exemple, on parle de rénovation des bâtiments. Est-ce qu'il faut contraindre les bailleurs ? Est-ce qu'il faut un grand service public de la rénovation ? Est-ce qu'il faut plus d'investissement public ? Vous savez que les experts eux-mêmes ne sont pas d'accord sur ces questions. On n'attend pas des citoyens qu'ils soient des experts, on attend d'eux qu'ils prononcent un jugement dans ces controverses et qu'ils nous donnent leur arbitrage.
Des arbitrages clés, assure l'exécutif. Le président et le gouvernement s'engagent à se servir de ces propositions. Ce qu'ils feront, veut croire Julien Blanchet, rapporteur général du dispositif.
Il ne peut pas y avoir de marche en arrière sur la promesse qui est de dire que ces propositions seront transmises sans filtre, soit au Parlement, soit soumises à tous les Français par un référendum, soit par application réglementaire. Donc si la question c'est est-ce qu'on a un texte dans le dur ? Non, mais comment peut-on imaginer un instant que le président de la République fasse marche arrière et que ce geste de confiance, il ne le poursuive pas ? Je crois que ça ne pourrait que conduire à un geste de défiance et donc je n'y crois pas un seul instant.
Les 150 citoyens accompagnés de garants mais aussi d'un comité d'appui technique et juridique ont maintenant 6 week-ends de travail devant eux pour écouter les experts, débattre et trouver une série de mesures avant de remettre leurs conclusions au président et au gouvernement au plus tard début février.
Un ancien Premier ministre et son ministre de la Défense seront bientôt devant la Cour de justice de la République. Édouard Balladur et François Léotard sont renvoyés en procès dans l'affaire Karachi. Les deux hommes sont soupçonnés de complicité, d'abus de biens sociaux et de recel lors de la campagne de 1995. Dans le dossier Mediator, le procès a débuté il y a 10 jours et les premiers témoins étaient à la barre hier. 3 fonctionnaires de l'inspection générale des affaires sociales, l'IGAS, 2 hommes et une femme, auteurs d'un rapport très sévère sur le Mediator, Florence Turm.
C'est un rapport de 123 pages rédigé en 6 semaines par 3 fonctionnaires de l'IGAS, dont le plus connu Aquilino Morel, l'ancienne plume du président François Hollande et le dernier à s'exprimer à la barre, avec 2 questions majeures. Quand le Mediator aurait-il dû être retiré du marché? En 1999, Hassan le témoin. Et pourquoi ne l'a-t-il pas été? Aquilino Morel prend son temps, détache les syllabes avec soin, parce que le système fonctionnait en faveur des laboratoires pharmaceutiques. Rapport accusateur que la défense s'efforce de mettre à mal, mais Aquilino Morel et avec lui ses 2 collègues ripostent parfois vertement aux avocats de Servier. Le Mediator a été évalué et réévalué 9 fois au cours de son existence, poursuit Étienne Marie. 9 évaluations, toutes réservées sur son effet thérapeutique, et il ne se passe rien pendant 10 ans. Plus catégorique encore, à la fois sur le fond et la forme, Anne-Carole Bansadon pointe les graves anomalies déjà signalées en 99. Ce premier cas de valvulopathie et les 11 cas d'hypertension artérielle pulmonaire. Elle insiste, des alertes capitales et autant d'occasions manquées de retirer le médicament du marché. Ce non-retrait est tout simplement incompréhensible. Oui, conclut le témoin, dans cette histoire tragique, la vie du médicament était prioritaire sur la vie des malades.
C'était Florence Turm qui suit pour nous le procès Mediator au tribunal correctionnel de Paris.
8h11 sur France Culture, la suite du journal de Clara Lecoq-Réal. Sylvie Goulard sera-t-elle commissaire européenne en charge du marché intérieur?
Elle est en tout cas la candidate de la France, mais avant d'être adoubée, elle doit passer une audition devant les eurodéputés du Parlement. Audition qui aura lieu aujourd'hui et qui s'annonce assez mouvementée, Marie-Pierre Véraud.
Il y a d'abord les emplois fictifs présumés du MoDem qui pourraient venir hanter l'audition de Sylvie Goulard. La justice française et l'Office européen de lutte antifraude sont saisis. Mais les émoluments qu'elle a reçus pendant 2 ans en tant que conseillère spéciale de l'Institut Berggren, un think tank américain, intéressent aussi les eurodéputés. Plus de 10 000 euros par mois, 300 000 au total, pour un travail dont Sylvie Goulard n'a pas fourni de preuves éclatantes. Ce qui, selon le député européen Yannick Jadot, nourrit le soupçon
de potentiels conflits d'intérêts qui pèseront tout au long du mandat si elle devait être confirmée. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'elle prendra une décision qui pourrait concerner des entreprises américaines, vous avez toujours des détracteurs qui diront « Est-ce que c'est lié au fait qu'elle a touché pendant des années 10-12 000 euros par mois sans faire grand-chose d'un milliardaire américain ?»
Sylvie Goulard, qui doit embrasser un portefeuille alliant l'industrie, la défense, le marché intérieur, le numérique, devrait donc subir un interrogatoire public serré. Mais son cas n'est pas isolé. Un tiers des eurodéputés disposent en effet d'un travail rémunéré en dehors de leur mandat. Ils sont même une 50aine à gagner plus de 10 000 euros chaque mois, soit davantage que leurs émoluments d'élus. Tous les partis sont concernés. Au-delà des mots, aucun n'a donc vraiment intérêt à faire chuter la candidate française.
Marie-Pierre Véraud. Nous évoquions hier, ici même, les craintes en Tunisie face à l'emprisonnement d'un candidat à la présidentielle. La cour d'appel de Tunis rejette la nouvelle demande de libération de Nabil Karoui. Il est soupçonné de blanchiment et de fraude fiscale. Ses partisans préviennent déjà, s'il n'est pas élu le 13 octobre prochain lors du second tour, ils déposeront un recours pour contester les résultats. Ils évoquent un manquement au principe de l'égalité des chances. C'était il y a précisément 1 an. Le journaliste saoudien Jamal Khashoggi était tué dans l'enceinte du consulat d'Arabie Saoudite à Istanbul. Son corps n'a jamais été retrouvé depuis. Un procès à huis clos doit bientôt avoir lieu en Turquie, mais depuis le début de l'affaire, les autorités turques dénoncent un crime prémédité et elles accusent le prince héritier saoudien Mohamed Ben Salman. Qu'en reste-t-il 1 an après, Franck Madvon?
Dans une interview ce week-end à CBS, Mohamed Ben Salman nie une fois de plus toute implication dans le meurtre de Jamal Khashoggi. Même s'il dit en assumer la responsabilité en tant que dirigeant. 1 an après, l'affaire ne le lâche pas. Mais MBS a seulement vacillé. À Riyad, il conserve tous les pouvoirs. Stéphane Lacroix est spécialiste de l'Arabie Saoudite à Sciences Po.
Depuis l'arrivée au pouvoir d'MBS, on a un autoritarisme très dur qui s'est mis en place en Arabie. Tous les critiques du pouvoir sont en prison en Arabie. Il n'y a plus d'espace pour exprimer une dissidence. Donc évidemment, aujourd'hui, personne ne critique MBS parce que personne n'a la possibilité de le faire.
L'image de MBS a toutefois été ternie par l'affaire Khashoggi.
Cette année, elle a contribué à considérer considérablement écorné son image à l'international, alors même que c'était quelque chose qui était très important pour lui. Il faut se souvenir que, à partir de sa montée en puissance en 2015-2016, il va mettre en place une opération de relations publiques sans précédent, en essayant de montrer que l'Arabie change, que l'Arabie se modernise. Tout ça, depuis 2018, a été un peu remis en cause. Plus personne n'est dupe, et je crois que c'est vraiment ça qui a changé.
Par ailleurs, MBS a beaucoup misé sur Donald Trump. Or, Washington ne semble pas prêt à tout pour soutenir son allié saoudien face à l'Iran. Et l'affaire Khashoggi a suscité de vives critiques dans le camp démocrate. MBS pourrait en payer le prix en cas d'alternance aux États-Unis.
La météo à présent en France métropolitaine pour ce mercredi qui débute et la pluie s'en va vers l'est. Elle tombera encore ce matin du Grand Est jusqu'à l'Occitanie, mais les averses vont s'estomper au fil de la journée pour laisser place à quelques belles éclaircies. Côté température, comptez ce matin 13 degrés à Lille, 14 à Paris et Brest, 16 à Strasbourg et Bordeaux, 23 degrés à Nice.